Vous écoutez RTL.
Héros français ô combien, Jules Verne, bonjour. Daniel Compère.
Bonjour.
Bienvenue.
Vous êtes historien spécialiste de Jules Verne. On célèbre cette année les 190 ans de sa naissance. Jules Verne, il s'est nourri de toutes ces innovations technologiques, de la révolution industrielle. On vient de parler du train pendant une demi-heure. C'était sa matière première en quelque
Effectivement,
sorte.
Effectivement, le train est une des inventions qui fascine Jules Verne. D'ailleurs, il en vit le développement, hein, puisqu'il naît dans les années 1828, et il va lui-même devenir un utilisateur pour se rendre à Paris, ensuite faire Paris-Amiens quand il habite dans cette ville. Mais bien d'autres inventions le fascinent. Le développement des techniques, des moyens de transport en particulier, le développement des moyens de communication, et puis toutes ces explorations qui ont lieu à son époque et qui véritablement lui font découvrir l'univers, un univers à la fois de plus en plus grand et de plus en plus petit aussi.
Le port de Nantes, sa ville natale, offre aussi à Jules Verne une porte ouverte sur le monde. On vous y emmène dans un instant sur RTL.
Jules Verne, c'est 22 000 pages, une soixantaine de chefs-d'œuvre.
RTL.
De l'île mystérieuse à 5 semaines en ballon, du tour du monde en 80 jours, aux enfants du capitaine Grant.
La curiosité est un vilain défaut.
Les épopées qui ont enflammé les imaginations.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
20 000 lieues sous les mers, le tour du monde en 80 jours, de la Terre à la Lune, 5 semaines en ballon, la saga Jules Verne. Dans la curiosité, on découvre le destin d'un des plus grands auteurs français avec l'historien Daniel Compère. C'est quoi son roman le plus lu ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ?
Le roman le plus lu, je crois, c'est Le Tour du Monde en 80 jours, dont nous venons de parler à propos des trains, effectivement. C'est un roman qui a fasciné les lecteurs à l'époque, mais aussi qui a été très vite adapté au théâtre, ce qui a multiplié donc le nombre des lecteurs ou spectateurs. Mmh. Et puis, de nos jours, on le sait, plusieurs adaptations au cinéma qui le font connaître et toujours redécouvrir.
Des dessins animés aussi.
Des dessins animés, voilà.
Jules Verne, qui est toujours aussi présent, toujours aussi moderne, on va, grâce à vous, découvrir son histoire, raconter son destin. Il naît le 8 février 1828, il y a donc 190 ans. On est à Nantes. Dans quel milieu familial, Daniel Compère ?
Alors, c'est un milieu familial relativement modeste. Son père est avoué, c'est-à-dire un métier qui a disparu aujourd'hui, un petit peu entre notaire et avocat. Sa mère ne travaille pas, mais c'est un milieu où on s'intéresse beaucoup à l'art, à la littérature. On lit le soir, on joue des petites pièces de théâtre en famille, etc. Donc, je crois que Jules Verne va baigner aussi dans un milieu qui va très vite l'attirer vers la littérature.
Et la maman de Jules Verne, Sophie Allotte, avait, paraît-il, beaucoup d'imagination. Qu'est-ce qu'il disait Jules Verne à son propos ?
Alors oui, il y a une image tout à fait drôle de Jules Verne qui compare l'imagination de sa maman à une locomotive Crampton. Là, on reste dans les chemins de fer,
oui,
décidément.
On change pas, hein.
C'est-à-dire certainement une imagination qui s'emballe très vite et qui avance et qui va très loin. Et lui-même, je pense, en a hérité puisqu'il va l'adapter à un certain nombre des inventions de son temps.
C'est quel genre de petit bonhomme, Jules Verne, d'enfant ? Il est sérieux, brillant, pas sérieux, au contraire, alors, turbulent, inventif ?
Je pense que c'est un petit garçon sérieux, tout au moins si on se fie à son propre témoignage, puisqu'il a raconté des souvenirs d'enfance à la fin de son existence. Il se raconte se promenant dans les rues de Nantes, regardant surtout les bateaux, puisqu'à l'époque Nantes a une importante activité portuaire, et très vite il imagine qu'il va un jour partir à bord d'un de ces bateaux. Il rêve de voyage, c'est un jeune homme rêveur, mais qui, dans sa jeunesse, ne va pas réaliser ses rêves tout de suite. Il faudra attendre quelques années avant qu'il voyage vraiment, mais je pense que très vite, il se dit que peut-être, à défaut de voyager vraiment, il pourra écrire des histoires de voyage.
Ah, effectivement, dans l'article que vous publiez dans le magazine Historien en partenariat avec RTL, Daniel Compère, vous décrivez ce rêveur biberonné à la Loire. Comment il se tourne vers la littérature ? Qui va lui donner sa chance, en quelque sorte ?
Alors, je pense qu'il y a certainement les parents qui vont lui proposer des lectures. On sait que Jules Verne va lire Fenimore Cooper, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais quand même, on connaît le dernier des Mohicans.
Ouais, ce sont des récits d'aventure. Ouais.
Des récits d'aventure qui se passent dans des espaces lointains, aux États-Unis. Et puis, il va découvrir, comme bien d'autres, les contes d'Edgar Poe, des contes fantastiques que Baudelaire va traduire en France et qui vont, pour beaucoup, et pour Jules Verne en particulier, montrer qu'il y a une autre littérature que le roman réaliste tel qu'il existe en France à l'époque.
Et puis il y a un autre grand nom de la littérature française qui lui donne sa chance, c'est Alexandre Dumas, c'est ça ?
Alors oui, là c'est tout à fait extraordinaire. Jules Verne devient étudiant à 20 ans, il arrive à Paris et très vite dans les salons, il va rencontrer Alexandre Dumas. Je crois que c'est à l'occasion d'un personnage qui lisait les lignes dans la main et ils se sont retrouvés tous les deux autour de lui et ont fait connaissance, ce qui est assez drôle pour les circonstances, mais Dumas va jouer un rôle important puisqu'il permet à Jules Verne de faire jouer une première pièce de théâtre en 1850. Et pour Jules Verne, ça va être l'entrée vers une carrière d'auteur de théâtre. Il va écrire quelques pièces, des comédies, des tragédies, et au bout de quelques années aussi devenir secrétaire du théâtre lyrique à Paris. Donc une activité qui lui permet de baigner dans ce milieu qui visiblement l'intéresse.
Et grâce à un autre personnage, un éditeur, Jules Hetzel, il va publier en janvier 63 son premier roman. Il a 35 ans, Jules Verne, ses 5 semaines en ballon. Il en écrira 62 des romans. Comment s'est-il nourri des découvertes scientifiques de son époque ? C'est ce que l'on vous dévoile tout de suite dans La Curiosité.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Rendez-vous du lundi au jeudi à 20h sur RTL avec les invités de l'heure du crime. Notre mission, expliquer, décrypter, comprendre les mystères des grandes affaires criminelles qui font la une de l'actualité. Avec les enquêteurs, les magistrats, les avocats, les experts et les archives sonores de la rédaction.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL.
Peut-on envoyer un homme sur la Lune au 19e siècle ? Ou anticiper la crise du gaz à l'époque de la vapeur ? La curiosité est un vilain défaut. Jules Verne nous met au défi d'explorer comment, aujourd'hui, peut créer notre lendemain.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité toujours avec l'historien Daniel Compère, spécialiste de Jules Verne. On célèbre en ce moment même les 190 ans de sa naissance. C'était en février 1828 à Nantes. Qu'est-ce qui reste des lieux que Jules Verne a connus dans le Nantes d'aujourd'hui, puisqu'il est né à Nantes ? C'était un Nantais acharné.
Oui, Jules Verne est très attaché à Nantes, oui. sa ville natale, et on le comprend. C'est une ville charmante qui a encore aujourd'hui certaines caractéristiques de ce qu'a pu connaître Jules Verne à son époque. Bon, sa maison natale existe toujours. Elle n'est plus dans une île comme du temps de Jules Verne, puisqu'on a comblé les bras de la Loire, et maintenant c'est le tramway qui passe à la place des bateaux.
Vous pouvez nous la décrire,
cette maison ? C'est une maison relativement simple. Une maison qui est au milieu des maisons d'armateurs, puisqu'à l'époque, Nantes est une grande ville d'armateurs et de commerce avec de nombreux pays lointains. C'est une maison donc tout près du port et on s'explique comment Jules Verne très facilement pouvait aller voir les bateaux arriver et partir. Et puis il y a une autre maison que la famille va acheter alors qu'il a 10 ans à peine, qui sera une maison qui est à l'époque à la campagne, à Chantenay, et qui est aujourd'hui un faubourg de Nantes. Et là, c'est une grande maison, une grande propriété qui donne sur la Loire, et Jules Verne raconte que très souvent aussi, avec un petit télescope, il observe le va-et-vient des navires. Et cette maison, aujourd'hui, elle accueille un musée Jules Verne, donc elle lui est vraiment consacrée, et elle permet d'y découvrir un certain nombre de trésors.
Daniel Compère, tout ça a nourri son imaginaire, on comprend bien. Qu'est-ce qu'il y a de Nantes dans ses romans ? Est-ce qu'il y a du Nantes dans ses romans ? Voilà.
Alors oui, en cherchant, on trouve des allusions à Nantes, parce que Jules Verne a quand même la caractéristique de souvent situer ses romans dans des pays lointains et très rarement en France. Sauf un tout premier roman qu'il a composé dans sa jeunesse qui s'appelle Un prêtre en 1835, qui n'a été édité que tout à fait récemment, on l'a retrouvé dans ses papiers. Et le jeune homme qui s'appelle Jules, le héros, est un écolier qui fréquente la même école que Jules Verne. On voit bien que c'est un début de roman qui va rester inachevé. Mais alors, plus intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, dans un roman qui n'est pas très connu, le superbe Orénoc, on a un personnage qui s'appelle le colonel de Kermor, qui a lui aussi une propriété à Chantenay où il se réfugie. Et lorsqu'il explore l'Orénoc, donc ce grand fleuve d'Amérique du Sud, ça lui fait penser à la Loire avec ses bancs de sable.
Alors on ne voudrait pas attrister nos auditeurs d'Amiens et de la région. Il a aussi vécu à Amiens longtemps, c'est ça ?
Oui, Jules Verne a passé plus de 35 ans à Amiens, donc il y a passé la dernière partie de son existence, il y a écrit beaucoup de romans, et là aussi Amiens n'est pas très présent non plus dans son œuvre, sauf alors là, une nouvelle d'anticipation qui s'appelle Une ville idéale, où Jules Verne imagine un Amiens dans le futur, mais qui en fait est rempli de clins d'œil pour les contemporains. Et ça a perdu un petit peu de son sel aujourd'hui, malheureusement, mais ça reste une petite nouvelle tout à fait curieuse.
Daniel Compère, Jules Verne a inventé un genre, un véritable genre littéraire, c'est le roman scientifique. Est-ce qu'il était lui-même scientifique ?
Alors, pas du tout. Jules Verne a fait des études littéraires, des études de droit, mais ce qui est passionnant, c'est de voir qu'il s'est très vite intéressé à toutes les découvertes de son époque, comme beaucoup de ses contemporains, d'ailleurs, je pense, il lisait des revues de vulgarisation, on annonçait, par exemple, telle découverte et son application possible, des magazines qui s'appelaient le Musée des Familles ou le Magasin Pittoresque, des publications qui se lisaient souvent en famille à l'époque.
Mais quand il crée, par exemple, le Nautilus dans 20 milieux sous les mers, il s'inspire de quelque chose qui existe ou d'un projet, de quoi s'inspire-t-il ?
Il s'inspire toujours de projets qui ont été plus ou moins réalisés ou qui sont parfois restés sur le papier. Le Nautilus, c'est un bon exemple, parce que là, on a un sous-marin dont on peut dire qu'il y avait différents essais qui ont été tentés dans les années 1850 déjà. Il y a même eu une cloche à plongeur qui est descendue dans la Seine en 1857 qui s'appelait le Nautilus déjà. Donc Jules Verne, on a certainement entendu parler, il était à Paris à l'époque. Et puis il a lu que pendant la guerre de Sécession, on a essayé aussi de fabriquer des sous-marins, mais qui étaient tous très petits, hein, pouvant emmener 3-4 personnes à peine, alors que lui, il va imaginer un Nautilus gigantesque, avec tout un équipage, avec une bibliothèque, un salon.
Mais ça veut dire qu'il est visionnaire aussi, Jules Verne, il ne fait pas que reproduire les découvertes du moment, de son époque.
Oui, c'est là son intérêt, bien sûr, c'est qu'il ne fait pas que reprendre telle quelle une invention, il va toujours la développer avec cette imagination que l'on évoquait tout à l'heure sous forme de locomotive. Il va toujours développer, imaginer et surtout se poser la question de l'utilité de certaines de ses inventions. Le Nautilus sous-marin peut devenir une arme de guerre ou aussi un refuge pour quelqu'un comme le capitaine Nemo.
La curiosité continue sur RTL avec cette question plus surprenante. Jules Verne faisait-il aussi de la politique dans ses romans ? Reste avec nous les curieux.
RTL.
Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde.
La curiosité est un vilain défaut.
Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
80 jours à courir.
Jules Verne en dessin animé, vous vous souvenez peut-être de ce générique, c'était diffusé sur Antenne 2 à partir de 1981 et puis ensuite sur France 5, on découvre les secrets de l'auteur du Tour du Monde en 80 jours, entre autres, grâce à notre invité, l'historien Daniel Compère, qui publie un article passionnant dans le magazine Historia. C'est en partenariat avec RTL. Jules Verne, on l'a dit, grand vulgarisateur, la science, les avancées technologiques du 19e siècle qui lui offrent la matière première de ses romans. Est-ce qu'il faisait aussi de la politique, Jules Verne, dans ses livres ?
Oui, alors la politique est un aspect qu'on a tendance à un petit peu oublier ou négliger ou parfois passer à côté quand on lit les aventures, mais il y a une dimension politique tout à fait importante, bon, ne serait-ce que le capitaine Nemo, qui est un révolté et qui utilise précisément son Nautilus pour couler des navires d'une nation ennemie. Mais Jules Verne se pose aussi les questions précisément de l'utilisation de la science par les hommes et à mesure que le
et
siècle...
Et par les militaires aussi.
Voilà, à mesure que le siècle avance, il voit qu'il y a de plus en plus d'armes de plus en plus terrifiantes, destructives, et il s'inquiète, il pense que le 20e siècle ne sera peut-être pas aussi heureux qu'on pourrait l'espérer.
Avec les mots d'aujourd'hui, est-ce qu'on dirait que Jules Verne est aussi un écolo ?
Alors oui, il y a une dimension écologique, très différente de la sensibilité d'aujourd'hui, mais dans certains personnage se soucie de ne pas trop exploiter la nature, se disant que ses réserves sont peut-être limitées, qu'il faudrait faire attention. Et puis surtout Nemo, je reviens souvent à lui, mais c'est un personnage important qui a le souci de préserver certaines espèces sous-marines, en particulier les baleines. Il voit que les chasseurs ont tendance à les tuer et là, ça nous renvoie bien à un problème tout à fait contemporain.
Daniel Compère, Jules Verne, c'était un homme public. Est-ce qu'il était une vedette de son époque ? Est-ce que c'était une star ?
Alors,
en France.
Oui et non, c'est vrai que c'est un personnage très connu, on vient le voir à Amiens, des journalistes du monde entier viennent l'interviewer par exemple, et on retrouve sa photo dans des magazines, même sur les couvertures des livres à la fin du 19e siècle, mais il a aussi un côté très solitaire, c'est-à-dire qu'il aime
c'est pas mondain.
Il aime bien, voilà, ouais. Il aime bien s'isoler, travailler, réfléchir, et bien sûr, hein, on ne peut pas composer non plus un roman ou deux romans par an en s'amusant continuellement à longueur de journée.
Est-ce qu'il a gagné beaucoup d'argent, Jules Verne, avec sa littérature et ses 62 romans ?
Relativement, oui. Il a gagné, j'avais calculé à une époque qu'il touchait 20 000 francs par an. Donc c'était un revenu fixe que lui donnait son éditeur. Donc ce qui fait à peu près, je dirais en gros, 3 300 euros par mois aujourd'hui. Bon, ce qui n'est pas énorme, hein, mais Jules Verne a gagné aussi par ailleurs beaucoup d'argent avec les adaptations de ses romans au théâtre. Et là, ça a été ce qui lui a permis de s'acheter des bateaux, de voyager, d'acheter une maison plus grande aussi. Donc, il n'a pas été malheureux, ça n'a pas été un écrivain maudit comme le 19e siècle en connaît.
C'est aussi l'histoire d'une fidélité, Jules Verne, à son éditeur. Oui. 62 romans.
Oui,
tous chez le même éditeur.
Alors le père Hetzel, qui a été l'homme important, un éditeur romantique qui a édité Hugo, George Sand en particulier, et qui a trouvé en Jules Verne un auteur qu'il a voulu pousser, et il a eu vraiment raison en cela, on peut le reconnaître aujourd'hui. Et puis, dans les années 1880, le fils Hetzel va reprendre la maison et Jules Verne va rester jusqu'au bout chez cet éditeur.
Avec ses couvertures qui ont un grain particulier,
voilà,
c'est
de,
ça
des très belles couvertures.
Un toucher cuir, des enluminures, c'est ça
des enluminures, ouais. et des gravures en noir et blanc qui font aussi rêver les lecteurs.
Et ouais, les collectionneurs. Ouais. Merci beaucoup, Daniel Compère, votre article. Jules Verne et le merveilleux scientifique. Quel joli titre est à lire dans le magazine Historia. C'est en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.